Donc Romains chapitre 12, et nous allons, ce matin, nous allons nous concentrer sur le verset 16. Mais relisons ce passage à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Donc Romains chapitre 12, et à partir du verset 9. Donc, nous avons dit, hein, ces passages en train de traiter le comportement que nous devons avoir, hein, jusqu'au verset 13, c'était le comportement avec les enfants de Dieu, hein, c'est ceux qui sont dans le corps de Christ. Et à partir du verset 14, eh bien, c'est avec même ceux du dehors. Bon, ça n'empêche pas de le faire, d'avoir cette relation avec ceux qui sont dans le corps, mais aussi l'importance d'avoir ces relations avec le monde extérieur. Donc, je commence à lire au verset 9. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Nous allons nous arrêter là, c'est le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est cette relation que nous devons avoir avec les gens extérieurs. Déjà, on l'a vu la semaine dernière, il dit de bénir ceux qui nous persécutent, de ne pas les maudire, de réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, et puis alors, tout d'un coup, il passe à autre chose, et on se demande pourquoi on parlerait aux chrétiens de choses pareilles. Mais les chrétiens ont besoin d'être exhortés. Et là, c'est une question le respect du prochain. Hein, c'est donner de la valeur au prochain. Et ça, c'est important. Plus ça va, moins on se sent valorisé dans la société. Hein, on est un chiffre, plus que notre identité, c'est votre numéro de sécurité sociale. On est une statistique. Mais le Seigneur, lui, sa pensée, c'est d'être. Il travaille avec la personne, il s'intéresse à la personne. Et pour lui, chacun est unique. Et c'est l'esprit que l'enfant de Dieu doit avoir aussi, hein, puisque nous sommes les enfants de Dieu, et c'est d'avoir avec chacun, et il y a cette relation entre moi et lui. Et au premier abord, quand on lit ce verset, on se dit, « Ouais, mais si je fais ça, si je pratique ça, eh bien, je vais me faire marcher dessus. » Écoutez, faites ce que vous voulez, vous allez faire marcher dessus. Hein, on s'est tous fait marcher dessus. On s'est tous fait avoir. Hein, on a des mots qu'on connaît très bien. Je me suis fait arnaquer, je me suis fait racketter, je me suis fait... On l'a tous vécu. Hein. Et puis alors, nos réactions, si elles sont violentes, c'est seulement une expression de notre frustration. Hein. Mais Paul nous incite à avoir cette attitude vis-à-vis du prochain. Il dit, peu importe son comportement, toi, tu es responsable pour ton comportement, ta réaction. Peu importe ce que lui fait. Hein, c'est pas lui qui gère ma vie, c'est pas lui qui décide de ma vie, c'est pas lui qui décide de ce que je vais faire et comment je vais réagir. Et je ne peux pas tout le temps être en mon comportement, c'est une réaction à ce que font les autres. Non, moi, je suis un, je réponds à ce qui est l'œuvre qui se fait en moi, et puis peu importe ce que. C'est un peu. Hein, c'est pour ceux qui aiment les chats. Le chat, il se promène dans la maison comme s'il était le maître. Et vous pouvez être collé à n'importe quoi, lui, il est ce qu'il est. Hein. Mais nous, nous devons être dans la vie, on est là. Et c'est pas le, l'environnement, c'est pas le climat, c'est pas le, c'est, qui influe sur ce, ma manière de voir les choses, c'est ma relation avec le Seigneur. Et c'est ce qui va nous donner une constance, parce que lui est constant, et donc ça nous donnera une constance, et finalement, notre présence sera un élément apaisant hein, dans la vie des gens qui nous entourent. Et donc, il y a cette, cette importance donnée. Et puis, vous avez remarqué qu'ici, alors qu'avant, c'était toujours des impératifs, mais des actes, ici, ce n'est pas des actes. C'est une attitude. Il y a des mots comme sentiment, comme aspirer, aspiration, comme attraction, comme c'est une manière de se voir, c'est ce qu'on est à nos propres yeux, mais c'est toujours, c'est pas des actes, c'est une attitude intérieure. Et là, il va plus loin, il, c'est pas une question de voilà comment tu dois faire, tu dois pas faire ça, tu... non, c'est travail l'intérieur. Et nous savons que l'extérieur suivra. Et là, il nous présente notre disposition intérieure de trois manières différentes. D'abord, il nous parle du sentiment que nous devons avoir pour tous, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, que nous allons développer. Ensuite, il nous parle d'une juste image de soi devant tous. Une juste image de soi devant tous, où il dit « n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ». Et ensuite, une même image de soi devant tous. Et c'est très important comment je me perçois et comment je vais agir par rapport aux autres. Et un peu l'étude de ce matin, ça va être un peu différent, parce que vous allez dire, mais ce n'est pas de la théologie, c'est plus, tu es en train de toucher à plus autre chose. Hein, le, mais oui, mais nous vivons, nous avons une âme aussi en tant que chrétiens. Et nous avons, et c'est notre être intérieur, c'est ça que nous travaillons. Hein, la, la, c'est pas la, la discipline du corps, alors là, il y a du monde autour de nous qui sont, ils sont très forts pour ça, la discipline du corps. Mais quand il arrive à l'âme, ça c'est autre chose. C'est tout un autre problème, et de nos jours, on a de gros problèmes à ce niveau-là. Hein. Mais l'enfant de Dieu, eh bien, il va se concentrer sur l'intérieur, sur l'état de l'âme. Et ce matin, nous, nous avons beaucoup souligné le fait que mon âme aspire après Dieu. Si je veux son influence, je veux qu'il travaille sur mon âme, parce que ça, ça changera mon comportement et mes relations avec ceux qui m'entourent. Il commence par, justement, dans ce verset 16, il y a les mêmes sentiments les uns envers les autres. On va... le traducteur, il a traduit littéralement, là, et, mais on va essayer d'amplifier un petit peu pour mieux voir ce qu'il voulait dire, parce qu'il était obligé de choisir des mots, et les mots ne disaient pas tout ce qu'il y a à dire. Et donc, on veut amplifier un peu le sens, là. Premièrement, le mot « sentiment », eh bien, ne se limite pas à ce qu'on peut ressentir, mais c'est un mot qui veut dire la pensée, la manière de distinguer, de concevoir, d'affectionner. Hein, c'est-à-dire, donc, le sentiment, c'est, il élargit, ce, c'est le sens large de sentiment, c'est cette manière de voir, de concevoir, de, d'apprécier les autres. Et donc, il dit, ce que vous pensez de vous-même, pensez-le des autres, sans faire de distinction entre eux. C'est ça qu'il est en train d'essayer de dire par là. Hein. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, c'est ce que vous pensez de vous-même, pensez-le des autres, sans faire de distinction entre eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de préférence, vous l'êtes avec tous. Et là, ça devient tout à fait autre chose. Bon, ça rentre dans le cadre, hein, c'est facile. Par ailleurs, on dit « aimez-vous les uns les autres ». Il dit « mais aimer les uns les autres, c'est ta manière de penser d'eux aussi, ta manière de les percevoir, ta manière de les voir. Hein. » Et donc de voir tous de la même manière. Hein, c'est dans le monde naturel, dans le monde dans lequel on voit certains d'une certaine manière, les autres là, on les apprécie, on les met dans des catégories, il y a toutes sortes de réactions. Hein, on sait comment c'est, on connaît notre monde, j'ai pas besoin de vous en parler. Mais il y a une chose qui arrive dans le corps de Christ et parmi les chrétiens, eh bien. Je vais peut-être le redire, mais on n'importe pas le monde dans l'Église. C'était une expérience extraordinaire qu'on vivait là en région parisienne, parce qu'on avait affaire avec du monde qui, de toutes sortes d'origines et qui n'était pas toujours bien mené. Hein. Ils étaient mal menés dans la société, de par leurs origines, de par leur religion, de par et toutes sortes de choses. Et l'église, venir le dimanche matin à l'église, c'était un lieu de refuge. Parce que là, tout d'un coup, on se sent tous, on a une valeur. On est tous importants, on est tous égaux, on est tous traités de la même manière. C'était un soulagement. Mais les gens venaient, ils n'avaient pas envie de partir. Parce qu'on repart dans un monde cruel, dur, qui nous rejette. Mais dans l'église, c'est là où on trouve vraiment sa place. Hein, et nous ne voulons pas que le monde puisse pénétrer dans l'Église. C'est pas la pensée du monde, on la laisse dans le monde. Et on rentre dans l'Église et on pense autrement. Il a dit, mais en fait, les sentiments que vous avez, pour l'un, il faut l'avoir pour l'autre. Et assurez-vous que vous avez la juste pensée quand vous l'avez pour l'un et pour l'autre. Et avoir la même pensée pour l'un et pour l'autre. Parce que ce que je regarde dans quelqu'un, ce n'est pas le fait de ses origines. Ce que je vois, c'est l'image de Dieu. Et ce que je vois, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce que Dieu peut faire de lui. Et pour chacun d'entre nous, on peut dire que quand on s'est approché de Dieu, ce n'était pas gay. Hein? Mais c'est ce qu'il a pu faire de nous. Et c'est ce qui a fait qu'il nous a bien reçus. Et c'est ce comportement qu'il a avec nous, eh bien, c'est ce que nous voulons refléter auprès des autres. Paul écrit aux chrétiens de Philippe, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il dit, ayez en vous, c'est ça, il élabore, après il dit, voilà, si je résume, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce que vous avez vu, le comportement que vous avez vu chez Jésus, eh bien, reproduisez-le. Et Jésus n'était pas seulement ce qu'il était avec les disciples, mais il était avec tout le monde. Ce qu'il était avec, même Jean qu'il aimait, le disciple qu'il aimait, il était avec la femme samaritaine. Il était, parce que c'était lui. Ce qu'il était, il l'était pour tout le monde. Hein? Heureusement pour nous que le soleil ne fait pas de distinction. Hein. Il brille sur les bons et les méchants. Pourquoi ? Parce qu'il dit, moi j'ai été créé pour briller, je brille. Voilà, les autres ils font ce qu'ils veulent, moi je brille. Et bien c'est ça, la pensée de l'enfant de Dieu. Il dit, moi Dieu m'a créé, il a mis en moi de la lumière, je dois luire, je luis, pareil pour tout le monde. Hein. Vous avez jamais vu de lampe qui... Celui-là, il rentre, ça diminue. Puis il y a quelqu'un d'autre qui rentre, oups, ça éclaire plus fort. Hein, et si ça fait ça, c'est qu'il y a un homme derrière. Hein, mais c'est normalement, la lumière ne fait pas ça. Mais c'est ça, la lumière de Dieu qui est en nous. La vraie lumière, celle que nous avons reçue de Dieu, c'est comme ça qu'elle se comporte. Jésus lui qui savait quel pouvoir, quels étaient les pouvoirs auxquels il avait accès, hein, il dira à Pierre, il dit, oh, j'ai pas besoin, range ton épée là, j'ai pas besoin. Moi, si je veux, je peux appeler une légion d'anges. Hein. Moi, je sais les pouvoirs que j'ai. Mais je reste humble. J'aime beaucoup ce passage dans Luc chapitre 8 où il y a deux histoires, deux guérisons. Il y a la femme avec la perte de sang depuis 12 ans et qui maintenant est réduite à la pauvreté parce qu'elle a dépensé tout son bien pour essayer de se faire soigner par les médecins. Elle n'a plus rien et elle a tellement honte de son état. Et puis, si vous lisez l'Ancien Testament, vous savez qu'une femme qui a un flux de sang, eh bien, elle est impure, personne ne doit la toucher, si quelqu'un la touche, il devient pur. Donc elle essaye de s'approcher de Jésus, qui est entouré d'une foule, essaie de s'approcher sans que personne ne sache qui elle était, elle arrive par derrière, elle touche son vêtement. Ça, c'est une personne, et l'autre personne, c'est Jaïrus, le chef de la synagogue, hein, la personne respectée de la communauté, et qui vient dire, Jésus, ma fille, elle est mourante, viens la guérir. Et vous savez, c'est dans notre société, si quelqu'un avait à choisir entre cette dame-là et la fille de Jaïrus, vous savez, de quel côté ça irait. On connaît notre monde. Mais Jésus est là, et il s'arrête, il s'occupe de la dame. Il dit, non, je vais lui donner encore plus que ce qu'elle demande. Il sait que la force est partie, elle est guérie, hein, c'est tout ce qu'elle demandait, elle a eu ce qu'elle voulait. Il aurait pu dire, j'ai fait ce que j'avais à faire pour elle, et puis je continue. Non, eh bien, il s'arrête, il dit, qui m'a touché? Les disciples disent, mais Jésus, tu exagères encore. Et puis tout le monde se bouscule et tout ça, puis tu dis, qui m'a touché? Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a une force qui est sortie. Il y a quelqu'un qui a puisé en moi quelque chose. Et la dame, elle se voit découverte. Et elle vient, elle confesse tout. Et Jésus, ce n'était pas pour l'embarrasser devant le monde, c'était pour lui donner plus. Il a dit, femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et puis là, pendant qu'il est en train de s'occuper de la dame, il y a Jaïrus qui est là-bas, et qui est en train de le regarder et dire, hey, et sa fille qui est mourante, et comprend, la fille est mourante, hein, c'est pas... Et le père qui est là, vous pouvez imaginer, hein, faites le cinéma dans votre tête, et la pression que ça met, la foule qui est là, et puis les disciples qui disent, mais Jésus, écoute, mais Jésus, il s'occupe de la dame, et puis pour assurer le papa, il dit, écoute, crains pas, crois seulement. Le père ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ce que ça peut faire, mais bon, c'est que le Seigneur lui a dit. Et avec les deux personnes, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et dit au chef de la synagogue, il dit, crois seulement. Et ensuite, Jésus sait, il dit, bon, c'est pas grave si elle meurt, c'est pas grave, je peux m'occuper de la situation. Donc, mais celle-là, si je ne m'occupe pas d'elle, elle va disparaître et l'opportunité sera partie. Tandis que le chef de la synagogue, il restera là. Hein. Je sais qu'il est là. Jésus a su faire la part des choses. Il ne fait pas de distinction. Ce qu'il était, il l'était pour l'un et pour l'autre. Alors que dans la société, ça aurait été très différent. Vous savez, c'est pas naturel pour nous parce qu'on a grandi dans cette société. Hein, mais Jésus, et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est de pouvoir faire voir les choses comme lui les a vues. Aucune partialité doit exister dans notre relation avec les autres. Et vous savez, c'est une chose qui peut paraître dans l'Église, et si ça fait quelque temps que vous êtes dans les Églises, vous savez que ça existe, hein, malheureusement. Même dans l'Église primitive, ça existait, et... Jacques en parlera, c'est l'un des premiers épîtres qui a été rédigé dans la Bible, c'est l'épître de Jacques. Jacques, c'est le pasteur de Jérusalem, et lui, tout de suite, il va traiter la question. Regardez dans Jacques chapitre 2, hein, regardez avec moi Jacques chapitre 2. De tous les sujets qu'il aurait pu traiter, très tôt il traite ce sujet-là. Jacques chapitre 2, et je lis les versets 2 à 4. Ça, c'est l'église primitive, hein, c'était quand, comment, dans notre esprit, c'était quand tout allait bien. Hein, ils étaient remplis de l'esprit, les âmes étaient sauvées par milliers chaque jour, et des baptêmes à ne pas en finir. Et regardez Jacques chapitre 2, verset 2, il dit supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un ami magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Bien sûr, le tapis par terre là, dans le coin, tu ne gêneras pas. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Voilà ce qu'il dit. Il dit, si tu entres et tu regardes et tu vois l'apparence de la personne et tu fais une différence dans leur comportement et ta manière de recevoir l'un ou l'autre, ben écoute, un, il va retrouver dans l'église ce qu'il trouve dehors, il connaît ça. Ce qui vient, c'est, il vient dans l'église, c'est pour trouver autre chose, un autre esprit. Et c'est pas une question de riche ou pauvre, c'est une question de un homme ou un homme. Hein, c'est ça dans l'esprit de Dieu. Il ne demande pas aux riches d'enlever son anneau, et ni est-ce qu'il demande aux pauvres de, écoute, essaye de t'habiller un peu mieux quand tu viens. Non, non. C'est une question de chacun est précieux devant Dieu. Et regardez après au verset 9, hein, vous êtes là dans Jacques chapitre 2, verset 9, il dit, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Il dit, « Si tu fais du favoritisme, on se comporte, les chrétiens se comportent dans l'église comme le monde se comporte dehors, il dit, alors ça va pas, c'est pas l'église, c'est pas le Seigneur qui est représenté. » Paul invoque une bénédiction sur les chrétiens de Rome au chapitre 12, 15 de Romains, hein, Romains chapitre 15 et les versets 5 et 6. Il dit que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une invocation, il invoque la bénédiction sur l'Église. Il dit, vous voulez la bénédiction du Seigneur? Eh bien, ayez un même sentiment les uns envers les autres. Parce que c'est ça qui va être le signe visible que le monde pourra lire pour savoir que le Seigneur est présent, qu'il a fait une œuvre. Parce que vous allez n'importe quelle autre rencontre dans le monde et c'est pas ça. Même parmi les présidents, tous les présidents ne sont pas reçus de la même manière. Hein. Il y en a qui ont des tapis plus rouges que l'autre. C'est tout. C'est le monde extérieur. Mais dans l'église de Jésus-Christ, je me rappelle, on avait à Saint-Denis pendant un temps, il y avait une famille qui venait chez nous, qui venait à l'église. La réalité, je l'ai dit aux gens de l'église, après qu'ils étaient partis. Mais j'ai dit, vous savez, ce monsieur, il gagne plus que nous tous ensemble. Et il gagne en un mois ce que nous faire une année. Mais le gars, il était là. Les gens ne pouvaient pas le deviner. S'il y avait un comportement, c'était... Il était là, il venait de Paris, du 17e, hein, si vous connaissez Paris. Il venait du 17e, il venait à Saint-Denis à l'église. Il venait en taxi avec la famille. J'étais déjà, il n'y a personne qui venait en taxi, la plupart venaient à pied ou avec le métro. Mais il venait avec taxi, et comme c'était une grande famille, ce n'était pas seulement le taxi 5 places, hein, c'était le 8 places. déjà ça surprenait les gens, mais il était là. Et il était une bénédiction pour l'Église. Et on a pu faire des travaux dans l'Église et tout ça grâce à eux. Le Seigneur s'est servi d'eux, mais personne n'aurait deviné. Il y avait un autre frère, il était très haut placé chez Total. Et il est arrivé à l'église, mais personne ne savait, il ne pouvait pas savoir où il travaillait. Il était là avec les gamins, il plaisantait avec eux, il s'asseyait au fond avec, comme on dit chez nous, on dit avec les Arabes. Et il était là. Vous savez, il y a un comportement qui fait la différence. Et combien de fois on a eu des gens qui sont venus à l'église et ils ont dit, mais ici, il y a quelque chose. Parce que je vois toutes sortes de personnes et je vois chacun est à l'aise, chacun peut faire. Il n'y a aucune. Bon, ça nous. Ouais, c'est sûr, il y a des cultures et tout. Mais un visiteur pouvait, dès le premier dimanche, savoir qu'il y avait quelque chose de différent là. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est ça que le Seigneur veut, plus que nous encore. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il n'y ait pas de qu'on ait un même sentiment pour tous. Le même sentiment les uns envers les autres. Et vous savez, ça fait pas mal. Hein. On peut le pratiquer. Et Paul interpelle un responsable d'église, Timothée, dans sa lettre à Timothée. Et lui, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Tite 1 Timothée, je veux dire, 1 Timothée 5, 21. Il dit ça, surtout pas de distinction. Et vous savez, le Seigneur nous permet, on est là, et en fait c'est très agréable, parce que celui qui a des grands moyens, il aimerait qu'on le voit, on ne voit pas ses biens, mais qu'on le voit lui. Et finalement, il est très bien dans l'Église, parce que on ne le voit que lui, et on ne pense pas à ce qu'il possède. Et celui qui n'a pas grand-chose, eh bien, il dit, j'aime bien qu'on s'intéresse à moi pour moi, et pas pour ce que je n'ai pas. Et finalement, chacun, en tant qu'être humain, on se retrouve mieux. Hein? Et c'est un sentiment agréable d'être tous ensemble dans ce genre de contexte. Et l'apôtre Paul le dit, mais parce que c'est une bonne chose, c'est bon pour la santé de l'être humain, et surtout de l'Église. Et c'est un bon témoignage. Il continue. Il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et on pourrait avoir toutes sortes de pensées, mais moi, j'ai vu ça comme une juste image de soi devant tous. C'est-à-dire, on sait tous ce que c'est que l'image de soi. Et on a parfois une image de soi qu'on veut projeter. Et parfois, ce n'est pas la vraie. Hein, alors, on a toutes sortes de moyens de nos jours pour essayer de projeter une belle image. Hein. Alors, soit on appelle ça du maquillage, mais on essaie de couvrir des choses. Et parfois, après, il y a des vêtements. Et puis, après, on a même un certain âge, mais on s'habille jeune. Pour essayer de projeter une image, on a toutes sortes de choses. De nos jours, on aime beaucoup l'image. Mais il a dit, ce que tu veux, c'est projeter la vraie image de toi. Ne sois pas trompeur. Ne sois pas menteur. Une juste image de toi et à tous. Ils n'ont pas besoin de penser faux de toi ou penser ce qu'ils ne devraient pas penser de toi, ou penser de toi meilleur que ce que tu es. Donc, que ce soit du vrai. Ne pense pas à ce qui est élevé, c'est-à-dire tu veux te projeter une image qui va te donner de la hauteur, mais en fait, elle est artificielle. Il dit, on n'a pas besoin de ça dans l'Église. Il dit, l'humilité, ça, c'est beaucoup plus agréable, même pour les autres, et puis ça ne fait pas de mal. Vous savez, il y a... On veut paraître plus sûr de soi qu'on ne l'est. Parfois, on veut paraître plus intelligent qu'on ne l'est. Hein, on se dit constamment, on est en train de se dire qu'est-ce que je suis bête, mais moi, les autres, on veut qu'ils pensent que je suis sage. Hein. On veut donner l'impression de tout savoir. Et finalement, parfois en projetant, il y a des gens qui sont sûrs d'eux et qui arrivent à projeter une image d'eux. Qui, finalement, c'est, les autres se rétractent. Ils ont dit, mais moi, je suis rien par rapport à lui, regarde-moi. Et tu l'obliges à se rétracter, à se retirer dans sa coquille, alors qu'il n'y a pas de raison. Finalement, il n'est pas meilleur que toi. Et tu n'es pas meilleur que lui. Mais tu es en train de lui faire du tort parce que tu projettes une image de toi qui n'est pas vraie. Et alors lui, après, en réaction, eh bien, il se rabaisse, il se démolit, il dit, mais moi, l'autre héros est toujours sûr de lui et tout ça. Et moi, je ne peux pas. Alors, on devient encore plus timide qu'on ne l'était. Vous savez, on se fait du tort. C'est une manière de mentir qui fait des dégâts parmi les autres. Et Paul, il dit, non, non, dans l'Église de Jésus-Christ, on n'a pas ça. Parce que dans l'Église de Christ, c'est toujours l'idée, c'est d'édifier, d'encourager. C'est pas de réduire. Vous savez, si vous n'aimez pas la compagnie des hautains, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous savez, les orgueilleux sont dérangés par les orgueilleux. Ils n'aiment pas les orgueilleux. Parce qu'ils veulent toute l'attention. Ils ne veulent pas que l'autre en prenne. Non. Tous en trouvent désagréable d'être dans la présence de quelqu'un qui pense trop de lui-même. Mais pourquoi, si tu sais, toi ça te dérange, que quelqu'un s'élève au-dessus de toi et qu'il se sente meilleur que toi, tout ça, ça te dérange. Pourquoi le ferais-tu aux autres? Tandis que celui qui est humble, même plus humble qu'il devrait, il dérange personne, il ne fait pas de mal. Il y aura toujours, celui qui est humble, il y aura toujours quelqu'un qui peut dire non, mais écoute, pour l'encourager. Tandis que celui qui est orgueilleux, on essaie de l'éviter, sauf si on a vraiment besoin de lui. Il dit, attention, ne trompez pas, ne projetez pas une fausse image de vous-même, mais soyez vrais les uns avec les autres. Hein, c'était un peu ce qu'il nous avait dit, on avait vu au verset 9, que votre amour soit sans hypocrisie. Que ce soit vrai. Et puis si ce n'est pas aussi bon que vous voudriez, eh bien, demandez au Seigneur, il travaille dessus, on s'en travaille ensemble, on le travaille, on avance. Mais ne trompons pas. Parce que ça perturbe tout le monde. Et le mot aspirer, hein, il dit, aspirez pas ce qui est élevé. En fait, c'est le même mot qu'on a trouvé juste avant, qui était traduit avec sentiment. Dans le grec, c'est le même mot. Hein, c'est juste pour ne pas faire la répétition, ils ont mis un, et n'ayez pas des sentiments, et puis dans l'autre, il dit aspirer. Mais c'est penser, concevoir. C'est-à-dire, ce que vous pensez, ce que vous concevez, votre manière de voir, eh bien, n'essayez pas d'imaginer quelque chose qui n'est pas, mais plutôt un peu d'humilité. C'est pas parce que je me vois lion que je deviens lion. Hein. Donc, c'est pas parce que je me vois avec de la hauteur que je suis plus que les autres. Mais Paul dit, nous devons plutôt nous laisser attirer. Attirer, c'est-à-dire emporter, entraîner, comme par un courant d'eau, entraîner. Il dit, laissez-vous entraîner par ce qui est humble. Rechercher la compagnie de ceux qui sont humbles, qui ne rabaissent pas, au contraire, ça ne rabaisse pas de chercher la compagnie de ceux qui sont humbles. On est tous plus à l'aise quand tout le monde, il est ce qu'il est. Et ça ne gêne personne qu'il y en ait qui en aient plus que d'autres. à partir du moment qu'on est tous, on se respecte mutuellement, on est là et on sait qu'on fait partie d'un corps, ça marche. C'est pas de la Bible n'enseigne pas du communisme où on prend les biens des riches pour le donner aux pauvres, et après tout le monde est pauvre. Mais il dit non, Dieu sait à qui il donne, et on ne fait pas tous partie du corps, et on partage, on encourage, et on a ce même sentiment, et vous savez, c'est très bien. Hein, je crois que c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est quand il y a toutes les couches de la société se retrouvent dans l'Église. C'est ça qui fait un bon témoignage. Et on ne demande à personne de renier ce qu'il est. Hein, celui qui a une grande intelligence, il ne doit pas faire semblant d'être idiot. Et celui qui ne sait pas grand-chose, ne doit pas faire semblant de savoir. Nous avons tous besoin des uns des autres. On avait dans l'Église des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, et on avait des gens qui avaient des doctorats. Mais ça vit très bien. Au niveau spirituel, ça vit très bien ensemble. Peut-être en société, ce n'est pas la même chose. Hein, mais à l'Église, on vit très bien. Moi, je me souviens, il y avait un Polonais. Ben alors, il fallait faire des études de langue pour comprendre son français. Mais quand il priait, c'était un mauvais français. Hein, pour quelqu'un qui voulait la grammaire, alors là, c'était... Mais on comprenait qu'il avait une relation avec le Seigneur. Et on était presque aux larmes. Son français, aïe, 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 fou. Mais c'est là où je me suis dit... Oui, mais il a une relation. Il sait à qui il parle. Il connaît celui à qui il parle. Et c'était extraordinaire. C'était une très bonne expérience. Bon, la preuve, je m'en souviens encore. Hein. C'est plus de 20 ans. Mais c'était extraordinaire. Il avait cette relation. Il pouvait... Vous savez, le prophète Samuel, un jour, il va voir le roi Saül, qui venait de désobéir à un commandement de Dieu. Et Samuel lui dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël ?» Il dit, « Quand tu étais petit à tes yeux, tu étais utile. Maintenant que tu te vois grand, eh bien, le Seigneur, il va te rejeter. » C'est un peu cette attitude de Jean Baptiste qui, les disciples sont venus le voir, lui dit, mais tu sais, celui que tu as baptisé, là, tu sais, tu te souviens, lui, il est en train de faire des guérisons, tout ça, et tout le monde va vers lui. Il n'y a plus personne qui vient vers toi. Et Jean Baptiste a dit, il faut qu'il croit, c'est que je diminue. C'est tout, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que c'était prévu. Je suis venu pour préparer le chemin pour lui, donc maintenant c'est normal que c'est lui qui occupe le chemin. Mais c'est cette attitude. Pourtant Jésus, de son côté, il disait de Jean, il dit, c'est le plus grand des prophètes. Il n'est jamais né un homme d'une femme qui était aussi grand que lui. Et vous savez, c'est cet équilibre qui est là, et c'est ça qui fait la merveille de l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'elle existe. Pierre exhorte à l'humilité en rappelant que « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça, il y a cette idée fausse qui circule, que l'humilité, ça veut dire de s'abaisser, se rabaisser, de devenir moins que ce qu'on est. Ce n'est pas vrai. L'humilité, c'est de s'abaisser à son juste niveau. Hein? Être humble, c'est être ce que je suis. C'est pas de se diminuer. Hein? Dieu n'a jamais, il a dit, mais moi je t'ai créé, et maintenant accepte-le et sois pleinement ce que comme je t'ai créé. Et l'humilité, c'est de dire la vérité sur ce qu'on est. Hein? C'est tout, être, voilà, je suis capable, je suis à l'aise avec moi. Et vous savez, c'est agréable d'être avec des gens qui sont à l'aise avec ce qu'ils sont. Ce qui dérange, c'est les gens qui, ou ils prétendent, ou ils font ceci, ou ils se diminuent, ça a des noms chez les médecins, les gens qui veulent se détruire, qui veulent se mutiler, tout ça, ça a des noms. Parce que c'est pas normal. Le Seigneur dit non. Sois, hein, que ton image de toi représente la réalité. Et ça sera très bien, tu auras ta place. Et tout le monde le fera. Et que tu aies cette. Et c'est ce que Jésus avait. Lui qui aurait pu prétendre de la gloire et tout ça, eh bien, pour dire que quelqu'un n'a été pas reconnu pour ce qu'il était, c'était lui. Hein. Donc, je l'ai déjà dit, les problèmes du monde ne doivent pas s'exporter dans l'Église. Dans l'Église, on est sous une autre influence, on est dominé par une autre pensée, on reçoit une autre éducation, et donc on produit autre chose. Jésus n'était pas grand-chose en Israël, mais Dieu a dit de lui, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est quand Dieu dit « Ça, c'est mon fils, je l'aime. » J'aime bien son attitude. Peu importe ce que les autres pensent. Jésus, en tant qu'homme, vivait avec l'approbation du Père et n'avait pas besoin de l'approbation des autres. Et finalement, c'est l'équilibre que nous voulons aussi. C'est de nous contenter de l'approbation de Dieu, et peu importe sur les autres. Et qu'ils découvrent les beautés de l'Évangile. On demande. Donc, et Jésus, pour nous, hein, celui qui a été rejeté, et bien pour nous, c'est la tête de l'Église. C'est notre Seigneur. On a un Seigneur avec des mains percées, comme un criminel. Oh, mais qu'est-ce qu'il est glorieux. C'est notre Seigneur. Il n'a pas honte de m'appeler son enfant. Pourquoi aurais-je honte de l'appeler mon Seigneur? Et ensemble, ben c'est un bon partenariat. Une juste image de soi devant tous. Et puis je termine avec juste une petite nuance là. Une même image de soi devant tous. C'est-à-dire que c'est l'image que je projette, c'est la même pour tout le monde, hein, et pour chacun. Et Paul reste avec ce thème, toujours ce même thème de cette vision de soi par rapport aux autres et ceux qui vivent autour de nous. Et il dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est-à-dire, ce que tu penses de toi, que ça soit vrai. C'est pas seulement ce que tu projettes aux autres soit vrai, mais ce que tu penses de toi, il faut qu'il soit vrai aussi. Et bien sûr, on sait combien ça peut influencer sur notre comportement, ce que l'on pense de soi. Il y a des gens qui, bon, ils ne sont pas grand-chose, mais ils essayent de fréquenter les gens qui sont quelque chose pour un peu de bénéficier un peu de leur gloire et tout ça. Et ils essayent de monter par fréquentation. Et il y en a qui payent très cher pour cela. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Il dit, et le mot « sage », on avait déjà dit tout à l'heure que le mot « sentiment », que le mot « aspirer », c'était la même racine, mais le mot « sage », ici aussi, c'est la même racine. C'est cette, finalement, c'est ce que tu penses, la manière dont tu conçois, c'est ça, ce que tu penses, eh bien, que ce soit juste. Ne pense pas de toi de manière incorrecte. Il souligne l'importance d'avoir une juste image de soi et qu'elle soit identique à celle que nous projetons, celle que nous entretenons. Autrement dit, il dit, dis-toi la vérité et dis la vérité aux autres. Salomon dit dans les Proverbes, Proverbes 26, verset 12, il dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que lui. » Il dit parce que si quelqu'un qui croit tout savoir, qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux pas l'aider, tu ne peux rien faire pour lui. Il n'entend rien, il ne reçoit rien, il ne peut rien changer chez lui. Il dit ben, « Tandis qu'un ignorant, ben, tu peux toujours l'aider. » Dans l'église de Jésus-Christ, il y en a un qui est content de lui. Moi, je suis merveilleux. J'ai déjà rencontré des gens qui ont prétendu être de plus péché. Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte si tu pèches plus? Bon, la Bible dit que tu es un menteur, mais bon, voilà, c'est ton problème. Et j'en ai rencontré d'autres qui m'ont parlé. Pendant 2 heures, il m'a parlé de son humilité. Je dis, bon, tu en es fier, hein? Tiens. Aïe, la soirée là, j'ai passé des soirées avec lui, mais celui-là, aïe. Il était en train de raconter me raconter des histoires et toutes sortes de choses qu'il a fait, combien il était humble. J'ai dit, mais laisse-moi remarquer. Je ne suis pas bête. Hein? C'est comme. Dans l'écriture, il y a des gens qui ils se vantent. Je dis, mais si tu es quelque chose, eh ben, qu'un autre te loue. Hein? Laisse-le voir, laisse les autres constater. Hein? Si c'est toi qui dois en parler, c'est que tu as du doute qu'ils le remarquent. Ça ne doit pas être très visible, hein, si tu es obligé d'attirer leur attention sur ce que tu es. Mais vous savez, on le rencontre autour de nous tout le temps. Hein? Mais dit dans l'église de Christ, non. Et c'est extraordinaire, et c'est pas parce que quelqu'un il a un titre ou il a une fonction dans l'église que tout d'un coup c'est... Moi, j'ai vu dans les églises, quand quelqu'un passe un moment difficile, eh bien, ils vont vers certaines personnes. Et ce n'est pas forcément une personne qui a une casquette dans l'église. Mais c'est une personne qui a une relation avec le Seigneur. C'est une personne qui ne fait pas beaucoup de bruit. On ne voit pas beaucoup. Mais quand je passe un moment difficile, je cherche cette personne-là. Parce qu'elle saura me relever. Vous savez, c'est ça que le Seigneur cherche. Dans Proverbe 3:7, il dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Il était dit de Jésus, le comportement de Jésus était d'être humble de cœur. Hein, il dit « Prenez mon joug sur vous. » Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Si c'est vrai de Jésus, ça sera vrai de ses disciples. S'ils sont doux et humbles de cœur, eh bien, ils pourront offrir du repos à l'âme de quelqu'un qui passe par un moment difficile. Mais celui qui est hautain, celui qui projette cette idée d'être déjà, eh bien... Il pourra aider personne. En fait, il décourage plus qu'il n'encourage. Paul nous dit, écoute, sois vrai. Ce que tu es, tu es. Ce que tu es dans le Seigneur, c'est largement suffisant. C'est tout ce que le Seigneur voulait. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui était, en tant que pharisien, était orgueilleux. Hein, il parlera même dans 1 Corinthiens 12, il parlera de « Le Seigneur a mis une écharde dans ma chair pour un peu m'aider à contrôler mon orgueil. » Mais il a pu écrire à l'église de Thessalonique, il dit « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend de tendres soins de ses enfants. » Il a dit « Oui, moi qui à l'origine, avant, j'étais orgueilleux, méchant, violent et tout, eh bien, avec vous, j'ai pu être comme une nourrice qui porte un enfant, qui prend soin d'un enfant. » Ça, c'est une transformation. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous. Et vous savez, si on a une église remplie de gens comme ça, ça sera un soulagement pour des gens qui sont perturbés par notre monde. Vous savez, les béatitudes, hein, on en entend toujours parler, mais Matthieu chapitre 5, hein, c'est le verset 1 nous dit que les disciples, Jésus s'était assis et ses disciples s'approchèrent de lui, et il a ouvert la bouche, et quand Jésus ouvre la bouche, eh bien il faut écouter. Et donc, au verset 3, donc Matthieu 5, verset 3, je vais lire jusqu'au verset 9, au verset 8. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voilà. Voilà ce que Jésus dit. Il est en train de dire la même chose que ce que Paul disait, poussé par le même esprit, l'Esprit Saint. Jacques chapitre 6, et je termine avec ce verset. Parlant de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et encore une fois, je définis « humble », c'est ceux qui disent la vérité sur ce qu'ils sont. Hein, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se diminuer, c'est être ce qu'on est. L'accepter, déjà, demandez n'importe quel psychologue, il vous dira « ça c'est déjà un bon début ». Et après, il y a ce que je suis en Jésus-Christ. Et ce que je deviens en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons encourager, c'est ça que le Seigneur veut nous donner. Pour que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous aide à être des véritables enfants de Dieu. Je vais prier, je vais donner un moment, je vais accorder un moment de silence où chacun pourra prier déjà dans son cœur. Et dire, Seigneur, oui, tu m'as touché sur ce point-là, mais je le retiens. Et je t'en parlerai plus tard, mais déjà je veux travailler ça. Et puis je terminerai par la prière.